Radio Okapi. Oh, Okapi.
Un éboulement de terre provoqué par une inondation a fait des victimes dans le territoire de Massissi au Nord Kivu dans la nuit de jeudi à hier vendredi. Le premier bilan fait état de 30 personnes mortes, d'autres corps seraient encore ensevelis sous la boue. La Cour constitutionnelle se déclare compétente de juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans l'affaire Bukangalonzo. Ainsi l'a spécifié son président hier. Mais du côté du parti politique Leadership et gouvernement pour le développement, l'on pense qu'aucune loi ne confère à la Cour cette compétence. Enfin, notre invitée dans cette édition, c'est Nicole Demour. Elle est secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration. Elle s'exprime sur le flux migratoire des Congolais en Belgique. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, 30 personnes ont perdu la vie dans un éboulement de terre provoqué par une inondation dans la nuit de jeudi à hier vendredi dans le territoire de Massissi. La catastrophe naturelle s'est produite dans la cité minière de Rubaya et à Bihambwe dans la chefferie de Baoundé. Des sources concordantes dans la région précisent que ce bilan est encore provisoire car plusieurs corps ne sont pas encore retrouvés et la fouille continue. Bernardine Diambo.
D'après nos sources dans la région, jusqu'à hier vendredi dans la soirée, 24 corps ont été retrouvés après fouilles. C'est précisément dans le périmètre 47-31 qui compte plusieurs sites miniers et qui, selon les experts, ne respectent pas les normes environnementales. Du côté de Bihambwe, 6 corps ont été retrouvés. On signale aussi que plusieurs maisons et des champs sont inondés par les eaux à la suite de fortes pluies qui s'abattent presque chaque jour dans la région. En réaction, le président de l'Union des jeunes pour la défense des droits des agriculteurs et éleveurs au Congo demande au gouvernement d'envisager la délocalisation des maisons construites autour de la rivière Osso à Bihambwe. Ceci à cause des inondations récurrentes dans cette rivière. Modeste Amini ajoute que si rien n'est fait, la route qui relie Goma à Massissi Centre risque d'être coupée au niveau de Bihambwe et Mema. Concernant l'éboulement dans les sites miniers, Modeste Amini demande au gouvernement de diligenter des enquêtes sérieuses afin d'établir les responsabilités sur ces drames. Signalons que ce bilan reste encore provisoire car la fouille se poursuit selon nos sources dans la région. Ces dernières rapportent que des inondations sont aussi signalées presque dans tous les coins de Massissi, notamment à Mouisso. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Dans la province du Sankuru, 3 personnes ont été tuées, des dizaines de maisons incendiées depuis la semaine dernière à ces jours, ainsi que le déplacement des populations. C'est le bilan du rebondissement d'un vieux conflit foncier qui oppose les habitants des secteurs de Nambelo à ceux de Vungé. Suite à ce conflit, plusieurs produits vivriers ont haussé de prix sur le marché de Lodja car les agriculteurs ne savent plus accéder à leurs champs pendant cette période de récolte. Des explications avec Esther Ndalafina.
D'après les sources sur place, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est la découverte cette semaine de la dépouille mortelle d'un jeune garçon de la localité de Longué dans le secteur de Nambelo, disparu le week-end dernier dans une forêt querellée depuis plusieurs années entre les habitants des secteurs de Nambelo et de Vungé. À sa découverte, ce corps du défunt avait plusieurs traces de violence. La société civile rénovée affirme que c'est depuis l'année dernière que les habitants de ces deux secteurs s'affrontent dans une forêt. La même source précise que l'enregistre des cas de tuerie chaque semaine depuis les affrontements de l'année dernière. Suite à cette tension persistante, les conséquences fâcheuses se font sentir sur la cité de Lodja. C'est notamment la hausse des prix des produits vivriers sur le marché de Lodja. On signale aussi des divorces de certains couples des habitants de ces deux secteurs ainsi que les déplacements de quelques ménages vers la cité de Lodja. Contactez l'administrateur des territoires à l'intérim, c'est réservé de tout commentaire. Rappelons que ce vieux conflit foncier est à la base de la suspension par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de l'administrateur des territoires de Lodja et de son adjoint. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Et puis, redynamisation de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers au Sud Kivu. La MONUSCO a appuyé le gouvernement provincial à travers un atelier de 2 jours qui s'est clôturé hier vendredi à Bukavu. La mise en place effective de cette commission pourra créer un environnement propice devant permettre le mécanisme de règlement de conflits coutumiers dans la province du Sud Kivu. Emmanuel Elamejou Akabedi pour les détails.
La charge de la gestion et règlement des conflits coutumiers devra revenir au seul chef coutumier par la médiation de pairs. Monsieur Joachim Siriaki, chef de division provinciale de la décentralisation et réforme institutionnelle du Nord Kivu, est venu à Bukavu partager son expérience.
On doit renvoyer toute contestation adressée aux autorités politiques, à leurs seules instances compétentes qui sont actuellement les commissions constatatives de règlement des conflits coutumiers. Ce que nous faisons au Nord Kivu a suffisamment évolué et les chefs coutumiers par eux-mêmes résolvent leurs problèmes et on a stabilisé suffisamment d'entités qui étaient à proie au conflit.
Monsieur Essi Esso de la section des affaires civiles de la MONUSCO Bukavu justifie l'appui de la MONUSCO dans ce genre d'activité.
Dans le cadre du retrait responsable de la MONUSCO, c'est donc tout à fait naturel que nous puissions soutenir les initiatives du gouvernement, surtout lorsque ces initiatives visent à renforcer les structures chargées de résoudre les conflits de toutes sortes.
Signalons que ces travaux se sont basés sur la loi de 2015 fixant le statut des chefs coutumiers, mais aussi l'arrêté ministériel de 2017 portant création, composition, organisation et fonctionnement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers. Emmanuel Elamejwa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Rebondissement dans l'affaire Matata Ponyo et consorts poursuivis pour détournement des deniers publics dans la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ils seront jugés par la Cour constitutionnelle. Elle a déclaré à son audience publique hier vendredi qu'elle est seule compétente pour connaître des infractions commises par le président de la République ou le premier ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est le juge pénal d'un ancien président de la République ou d'un premier ministre qui n'est plus en fonction au moment de poursuite et ce en parfaite harmonie avec l'esprit du constituant. Rappelons que le 15 novembre 2021, la même cour s'était déclarée incompétente à connaître de cette affaire. C'est un ton solennel que le président de cette juridiction a rendu cet arrêt. Dieudonné Kamuleta est au micro de Jeff Ngoy.
La Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaître des infractions commises par le président de la République ou le premier ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La Cour constitutionnelle est le juge pénal d'un ancien président de la République ou d'un premier ministre qui n'est plus en fonction au moment des poursuites et ce, en parfaite harmonie avec l'esprit du constituant. Le présent arrêt sera signifié au parti dans la cause sous RP09-CR, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au premier ministre. La Cour a ainsi délibéré statuer en son audience publique.
En réaction à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD de Matata Ponyo se demande comment est-ce que la Cour constitutionnelle va juger un ancien Premier ministre. Selon Franklin Tchamala, aucune loi ne confère à la Cour constitutionnelle cette compétence, d'autant plus qu'elle s'était déjà déclarée incompétente de juger l'ancien Premier ministre et sénateur. Franklin Tchamala est au micro de Jeff Ngoy.
Nous attendons de voir comment la Cour constitutionnelle va devoir réouvrir un dossier qui est déjà clos par un arrêt rendu par la même Cour, dès lors que l'on connaît que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours, y compris par elle-même, par rapport à cette jurisprudence dangereuse qu'elle vient de décréter par rapport au régime pénal d'un président de la République et d'un premier ministre honoraire. Nous attendons de voir comment elle va faire, parce que tout devra se faire conforme à la loi. S'agissant du droit pénal, en vertu de quelle loi cette Cour se donne-t-elle les compétences dorénavant de s'ériger en juge pénal pour un Premier ministre honoraire, un Président de la République honoraire, compétence qu'elle ne lui confère aucune loi.
Autre nouvelle, en rapport avec le contentieux électoral provincial de l'Équateur, la Cour constitutionnelle a réhabilité à son audience publique hier vendredi 7 députés provinciaux. La Cour était saisie de leur requête en inconstitutionnalité de la décision contenue dans le procès verbal du bureau d'âge du 29 septembre 2021 de cette Assemblée mettant fin à leur mandat des députés provinciaux. Elle s'est déclarée compétente uniquement pour l'examen des articles 19 alinéa 3 et 61.5 5 de la Constitution. D'après la Cour constitutionnelle, le procès verbal de la réunion du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est contraire à la Constitution, usant de son pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public, dit pour droit que les députés invalidés vont recouvrer la qualité de députés provinciaux, mais que la présente décision n'aura pas pour effet de reconnaître aux députés réhabilités un quelconque droit de remettre en cause la configuration actuelle du bureau qui, à ces jours, s'est cristallisée, a précisé Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle. Sont aussi réhabilités dans leurs droits deux autres députés provinciaux de l'Équateur. Il s'agit de Mobeki Mawa Zoziko et Bukalumpulo Claude, injustement invalidés par l'Assemblée provinciale de l'Équateur le 4 décembre 2021. Et puis en plus bref, au lendemain de la déclaration des États-Unis ainsi que les envoyés spéciaux de Grand Lac, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni condamnant dans les termes les plus forts l'avancée continue du M23 tout en appelant ces rebelles soutenus par le Rwanda à se retirer immédiatement des positions occupées en RDC, on note une accalmie ce samedi sur la ligne de front. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public ce samedi, l'armée rwandaise annonce avoir abattu un militaire congolais de la garde républicaine cette nuit à la frontière rwandaise, plus précisément à la petite barrière à Goma. Elle dit avoir saisi le mécanisme conjoint de vérification qui est en train d'enquêter sur cet incident. Côté congolais, aucune réaction officielle n'est enregistrée jusqu'ici. Pendant ce temps, à Kolwezi, dans le Lualaba, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester leur soutien au FRDC et au président de la République. Ils sont partis de plusieurs coins de la ville et même de la périphérie. Ils ont tous convergé à la grande place de la poste de la commune de Dilala, portant des calicots ayant des messages d'encouragement des forces armées et de leurs familles. Pour la gouverneure intérimaire de Lualaba, par cette marche, il était aussi question pour les habitants du Lualaba de prier à l'unisson pour recommander les FRDC entre les mains des dieux pour une victoire sur les agresseurs. Présent à la manifestation, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État a convié les jeunes à se faire enrôler dans l'armée pour la défense de la patrie convoitée pour ses nombreuses richesses. Manifestation aussi ce samedi à Cabinda dans la province de Lomami. Toutes les forces vives de la province de Lomami sont ce samedi dans les rues derrière le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale pour soutenir le président de la République ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces vives ont répondu favorablement à l'appel de mobilisation du gouverneur de province Nantan Ilunga. Les détails avec Esther Ndalafina.
À Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, disons que c'est depuis tôt le matin que les députés provinciaux conduits par le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province et tout son gouvernement provincial, les organisations de la société civile, les partis politiques, les associations des jeunes et des femmes, ainsi que les agents et fonctionnaires de l'État sont dans les rues pour répondre à l'appel de mobilisation du gouverneur de province. Avec des calicots en main où il est écrit, je cite, « Nous disons non à la complicité de la communauté international, non à la balkanisation du territoire national, non à l'agression de la RDC par le M23 et tant d'autres messages. Cette marche est partie de la paroisse Sainte-Marie pour chuter au stade Kamukungu où le gouverneur de province a tenu son meeting. Dans son mot, Nathan Ilunga a demandé aux Lomamiens de rester fidèles au chef de l'État. Il a aussi sollicité les jeunes de se faire enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Enfin, Nathan Ilunga a annoncé l'ouverture d'un compte dans lequel chaque citoyen peut contribuer avec $1 pour soutenir les FRDC qui sont au front. Il suggère aux chefs de service et aux ministres provinciaux de contribuer avec plus d'$1. Signalons qu'une marche similaire est organisée par la mairie de la ville ferroviaire de Mwenedito. Toutes les forces vives de cette ville y ont pris part. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, une quarantaine de femmes et filles de Bounia ayant œuvré dans différents secteurs sociaux ont été primées ce vendredi par les autorités de la province et la MONUSCO. C'est à l'occasion de la célébration du 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité qui est célébrée ce vendredi 18 novembre. Il s'agit des femmes qui se sont distinguées entre autres dans le secteur du dialogue communautaire, celui de l'encadrement des enfants ou encore de sensibilisation des groupes armées pour les retours de la paix. Le point dans ces reportages de Jean-Claude Lokidile.
Parmi ces femmes figurent Georgine Lové, la coordinatrice de l'ONG FADEM, femme en action pour le développement multisectoriel. La trentaine révolue, elle a reçu un prix spécial pour avoir joué un rôle dans la libération au mois d'avril 2022 des membres de la Task Force pour la paix envoyée par le chef de l'État. Ils avaient été pris en otage par la milice Codeco avant que ces derniers ne signent l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités dans les territoires du Djougou. Georgine Lové.
Oui, j'ai pris beaucoup de risques, mais j'étais déterminée. Tout ce que nous avons fait, la finalité était, on les a accompagnés des accords qui étaient signés ici à Bounia. Moi, en tant que femme, je suis fière de continuer dans cette thématique-là.
Pour la coordination provinciale de la résolution 1325, c'est une manière symbolique de témoigner de la gratitude à l'endroit de ces femmes et filles qui militent pour le retour d'une paix durable dans la région. Jean-Marc Mazio, le secrétaire permanent de cette organisation en Ituri.
En fait, c'est ça la résolution 1325. Donc, on veut que la femme participe, on veut que la femme soit au centre de tout dans la recherche de paix. La femme participe aux instances de prise de décision.
À cette occasion, une feuille de route a été élaborée par les participants dans le cadre des actions futures à mener. C'est dans le but de rendre effective cette résolution dans la province de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, l'intensité des conflits intercommunautaires va crescendo. On a passé désormais la barre de 500 morts selon l'Agence de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, qui vient de sortir son dernier rapport sur la question. Des conflits que l'on retrouve principalement dans le sud et qui concernent avant tout les agriculteurs et les éleveurs. Et puis, l'Union européenne rejette une proposition inacceptable de la présidence égyptienne de la COP27 sur le conflit climat, qui conduira à remettre en cause les engagements passés sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, a indiqué ce samedi à l'AFP une source gouvernementale française.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Nicole Demours, secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration. Elle s'exprime sur le flux migratoire des Congolais en Belgique. Elle est notre invitée donc, elle s'entretient avec Kelly Yoka. Suivez.
Nicole Demours, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes secrétaire d'État belge à l'asile et la migration. Alors, aujourd'hui, quelle politique migratoire envisagée entre la RDC et la Belgique?
La Belgique et la RDC ont une excellente coopération en matière de migration. Et pour cette raison, je suis ici pour renforcer notre relation pour gérer les flux migratoires. Et la Belgique veut arriver à une migration contrôlée et juste. Et pour cette raison, on mène aussi des campagnes de prévention et d'information pour informer les gens des manières dont on peut voyager vers la Belgique et aussi informer les gens sur les risques et les dangers d'une migration clandestine.
Alors, la Belgique compte intervenir en RDC dans la construction d'un certain nombre de postes frontaliers, 5 plus précisément. Comment ça va se passer?
La Belgique a en effet cofinancé par le financement de l'Office des étrangers de Belgique la construction des bâtiments frontalières et des bâtiments provinciaux. Et avant-hier, j'étais à Kenge pour l'inauguration d'un de ces bâtiments. Et c'est important pour mieux gérer les flux migratoires qu'on travaille ensemble. Et ce bâtiment était un bon projet, un très bon résultat et un exemple de la bonne coopération entre la RDC et la Belgique.
Concernant le flux migratoire des Congolais en Belgique, comment la Belgique compte-t-elle régler cette affaire avec les Congolais qui sont en règle ou pas en Belgique?
Un Congolais qui veut voyager vers la Belgique pour y visiter, rendre visite ou pour y séjourner doit tout d'abord se demander qu'est-ce que je vais faire en Belgique. Est-ce que je vais rendre une visite familière, une visite touristique, ou est-ce que je vais étudier, travailler, faire des affaires? Et ça, c'est très important parce qu'on a besoin d'un objectif pour le voyage et après, on doit fournir tous les documents pour la demande de visa. On n'a pas d'objection à ce qu'il y ait des Congolais qui viennent en Belgique, mais c'est important de suivre les règles parce qu'il y a beaucoup de risques pour des personnes qui voyagent par des voies irrégulières ou illégales. Donc ça, c'est très important de suivre les règles. Et sur le site web du SIV, l'ancien maison Schengen, il y a tous les documents qu'on doit fournir pour une demande de visa.
Le 9 novembre, un vol spécial a quitté Bruxelles à la destination de la RDC avec à son bord 14 demandeurs d'asile congolais. Peut-on dire que la migration a mis un peu plus d'accent sur la communauté congolaise ou c'est pas le cas?
Non, c'est pas du tout le cas, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de risques pour des personnes qui vivent en séjour irrégulier en Belgique. Et si une personne a reçu un ordre de quitter le territoire, c'est important de faire suite à cet ordre de quitter le territoire. Et pour ces raisons, j'ai élaboré un système d'accompagnement pour des personnes pour leur aider à retourner vers leur pays. Il y a différentes aides qui sont là pour aider les gens, donner leur une assistance et un accompagnement intensif. Mais pour des personnes qui ne veulent pas retourner, en effet, un rapatriement forcé est organisé. C'est aussi pour aider les gens parce que des personnes qui sont en séjour irrégulier, ils peuvent être même exploités. Donc, on fait tous ensemble tout pour éviter cela. Et c'est clair qu'on doit migrer vers la Belgique par des procédures légales. Et une personne qui voyage vers par des procédures illégales ou des voies illégales, par exemple par demander l'asile, il va finir avec une refus de la demande d'asile et dans un séjour irrégulier. Et pour ces raisons, on organise le retour aussi. Et dans l'organisation de retour, la Belgique a une très bonne coopération avec la RDC.
Alors la dernière question, comment voyez-vous dans 5 ans ce partenariat migratoire entre la RDC et la Belgique?
Comme je l'ai expliqué, on n'a pas d'objection à ce qu'il y ait des Congolais qui viennent en Belgique, mais c'est crucial de suivre les procédures existantes et d'utiliser les voies légales. Et pour ces raisons, c'est important d'arriver à une migration contrôlée et juste et de suivre les procédures.
Nicole Demour, je rappelle que vous êtes secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration. Merci.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.